les podcasts de Radio Vatican.
Après le référendum sur la réforme constitutionnelle dimanche 16 avril 2017, la Turquie en aura-t-elle deux autres sur le rétablissement de la peine de mort et sur l'adhésion à l'Union européenne? Le président Recep Tayyip Erdogan a en tout cas évoqué ces deux nouvelles consultations populaires au lendemain de la victoire du oui au renforcement de ses pouvoirs. Une victoire, oui, mais étriquée avec 51,4% des voix et contestée. La Commission européenne appelle la Turquie à une enquête transparente sur les irrégularités présumées dénoncées par l'opposition. Des observateurs internationaux ont aussi déploré les conditions inéquitables de la campagne. Recep Tayyip Erdogan leur a répondu de rester à leur place. L'opposition peut-elle capitaliser sur le score du non ou le président turc a-t-il désormais les coudées franches? La réponse du politologue Samim Agonul, maître de conférence à l'Université de Strasbourg.
Il les avait déjà, les coudées franches, sauf qu'il les avait de facto. Il les utilisait d'ailleurs, tous les moyens. Il a fallu tailler sur mesure une nouvelle constitution. Maintenant, effectivement, techniquement parlant et juridiquement parlant, il y a le cadre légal aussi pour qu'il soit l'homme fort, l'homme seul, le seul homme fort de l'ensemble du régime pour l'exécutif, pour le législatif et pour le judiciaire.
Et donc, il n'y a plus vraiment de contre-pouvoirs. Où sont les contre-pouvoirs aujourd'hui en Turquie?
Ah, il n'y en a pas. C'est-à-dire que les moyens de contre-pouvoir traditionnels en Turquie, qui était l'armée, a été évincé de la politique par l'AKP d'ailleurs, mais pour monter une armée à ses ordres. Les médias sont entièrement maintenant aux ordres du gouvernement. Les partis d'opposition sont soit attirés vers l'AKP, comme c'est le cas pour les ultranationalistes, soit criminalisés, comme c'est le cas pour le HDP, le parti démocrate, socialiste, pro-kurde, dont approximativement 2500 membres sont en prison, dont les co-dirigeants. Les institutions, la justice, qui est aujourd'hui entièrement soumise au pouvoir, et peut-être contre-pouvoir, bon, l'Europe, les institutions européennes, mais aujourd'hui, elles n'ont plus la cote en Turquie du tout. Chaque fois qu'il y a un rapport, immédiatement, ce rapport est insulté par le pouvoir et par le président lui-même. Donc, de ce point de vue, je vois mal comment il peut y avoir un contre-pouvoir solide qui peut balancer, qui peut équilibrer le pouvoir personnel de Recep Tayyip Erdogan désormais.
Alors le référendum, on voit bien qu'il y a quand même une Turquie divisée en trois parties, entre l'Anatolie rurale qui a voté pour en majorité d'un côté, l'Est kurde qui a voté contre, et puis les grandes villes et le littoral touristique qui aussi ont voté contre le référendum. Est-ce que c'est nouveau?
Eh bien, cette division n'est pas nouvelle en réalité. Chaque fois qu'il y a des élections, il y a justement la frange conservatrice anatolienne et la frange nationaliste du nord d'Anatolie vote pour l'AKP, plus ou moins. Les côtes votent pour les kémalistes et donc le sud-est vote pour les partis pro-kurdes. Ce qui est nouveau quand même, c'est que dans les trois grandes villes où l'AKP a l'habitude de gagner les élections, que sont Istanbul, Ankara et Izmir, pas Izmir, à Izmir ils n'ont pas l'habitude, mais à Istanbul et Ankara, aussi le non a remporté de courte tête. Mais ce qui veut dire peut-être que l'AKP, pour ce référendum, a perdu sa majorité à l'intérieur même de ces deux grandes villes que sont Istanbul et Ankara, bien qu'ils soient associés avec des ultranationalistes. Mais est-ce que c'était conjoncturel ou plus structurel? On verra ça lors des prochaines élections. En tout cas, maintenant, ces élections étaient très, très verrouillées. Il n'y a pas eu de propagande du non. Ça n'était pas possible. Pour les élections futures, ça va être encore plus difficile de faire campagne.
Justement, les élections futures, il y a les deux référendums, peut-être sur l'adhésion à l'Union européenne, le référendum sur la peine de mort et puis les autres élections. Est-ce que l'opposition peut capitaliser sur ces 48,6% de voix contre ou est-ce qu'elle est trop divisée?
Il n'y a pas une opposition, comme vous le dites. Les gens s'opposent au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan pour des raisons très variées et parfois pour des raisons opposées. Ce sont les kémalistes nationalistes et les socialistes pro-kurdes ne peuvent pas se mettre d'accord. Il y a eu les possibilités de le faire dans le passé, notamment après les élections de juin 2015. Eh bien, à cause de cette animosité de plusieurs décennies, ce ne fut pas possible. Toujours parmi les opposants, il y a une partie, une frange des islamistes, de l'ancien milieu russe. Donc, eux, ils ne peuvent pas se mettre avec les laïcs ni avec les Kurdes. Toujours dans l'opposition, il y a une partie des ultranationalistes qui ont refusé de suivre leur parti. Eh bien, leur peur, c'est justement les Kurdes. Donc, vous voyez que les raisons d'opposition sont tellement différentes, tellement éloignées et tellement opposées qu'il ne peut y avoir, pour l'instant en tout cas, une opposition solide face à Recep Tayyip Erdogan. Justement, il joue sur cette division et il a réussi jusqu'à maintenant. Maintenant, nous verrons s'il y a la construction d'un discours commun, mais dans l'état actuel politique de la Turquie, ça me semble assez difficile.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.